Vous écoutez On lit pour vous.
Valoriser l'éducation, un prérequis pour l'avenir. Un texte d'Hélène David, paru le 28 août 2024 dans la presse. L'éducation, c'est ce qui reste quand on pense avoir tout perdu. C'est tout le bagage qu'on a acquis qui nous a permis d'assurer notre développement émotif, cognitif et social. Les éducateurs et éducatrices, qu'ils soient parents, enseignants, coachs ou autres, ont tous une importante responsabilité sociale. L'éducation, c'est beaucoup de choses. C'est un moment heureux de lecture qu'un parent vit le soir avec son enfant. C'est le privilège d'avoir accès à des livres dans notre maison. C'est la visite à la bibliothèque pour l'heure du compte. C'est l'enseignante qui nous a permis de croire en nous-mêmes, qui nous a fait découvrir nos intérêts ou nos passions. C'est le défi d'une vie. Et pour le relever, il faut au minimum avoir éprouvé le sentiment d'avoir été désiré, aimé, valorisé. Exister d'abord dans les yeux d'un autre est essentiel pour que l'enfant puisse s'aimer lui-même. Il doit sentir que quelqu'un se préoccupe de lui. Il y a ceux et celles qui ont gagné à cette loterie de la vie, et il y a les malchanceux que le destin a fait naître et grandir sous des cieux beaucoup moins cléments. On dit souvent de l'éducation qu'elle existe pour donner la chance à chaque enfant de développer son plein potentiel. Ah oui? Imaginez la hauteur de la marche pour un enfant ayant vécu de la violence, de l'abus sexuel, de la pauvreté, de l'insécurité affective, une guerre ou l'exil. Alors oui, il faut prendre soin de tous les enfants, mais encore plus de ceux qui arrivent à l'école en ayant déjà obtenu un diplôme de la vie, celui du trop-plein de traumatismes. Le destin est injuste et cruel. L'école peut faire une énorme différence dans la vie de ses enfants, si tant est qu'on leur en donne les moyens. Offrons à nos jeunes tout ce que le Québec sait faire de mieux pour assurer qu'ils soient en mesure de maîtriser ce qui est nécessaire pour faire face à ce monde de plus en plus rude et complexe. Le système actuel d'éducation, de l'enfance aux études supérieures, doit réaffirmer haut et fort ses choix d'une éducation compétente, généreuse, humaine et accessible également à tous. Nous avons accompli des pas de géant depuis la Révolution tranquille. Mais aujourd'hui, nous devons être au chevet des enfants qui arrivent trop souvent à l'école déjà brûlés par leur courte vie. Les enseignants font des miracles, mais eux aussi doivent être soutenus. D'où vient cette perte de sens qui touche beaucoup trop de nouveaux enseignants, tous ceux et celles qui quittent malheureusement leur métier dans une proportion inquiétante, après quelques années de pratique d'une profession pour laquelle ils ont consacré plusieurs années d'études? On les a formés pendant 4 ans. On les a soutenus, encadrés, et on les envoie au combat avec trop peu de munitions. Ce n'est pas normal, et c'est profondément attristant. Un échec pour la société, pour eux-mêmes et pour le réseau scolaire. Sans compter tous les étudiants qui abandonnent leur programme avant même d'obtenir leur diplôme. Le système d'éducation n'est pas que l'affaire d'un gouvernement, d'un centre de service scolaire ou d'une université. Il faudrait réunir tous les acteurs pertinents dans une grande discussion nationale, mettre tous les enjeux sur la table, en partant de la formation universitaire et jusqu'aux difficultés de début de carrière, au manque de reconnaissance d'acquis et d'expérience d'enseignants étrangers, à la précarité d'emploi, aux enjeux d'infrastructure, de décrochage, de santé mentale et de transition entre les ordres d'enseignement, sans oublier l'intégration des jeunes immigrants et leur francisation, ainsi que les élèves et étudiants avec des besoins particuliers. Cette réflexion publique et à grande échelle, tous pourraient alors se l'approprier. Le savoir et le développement affectif et social de nos enfants doivent être un sujet de discussion à large spectre, tout comme il l'a été dans le mandat de la Commission Parents. Ce rapport, décliné en plusieurs tomes, fait toujours école, presque 60 ans plus tard. On le célèbre pour son audace et sa créativité, comme ce fut le cas récemment au moment de souligner les 100 ans de l'un de ses célèbres commissaires, le sociologue Guy Rocher. On a fait, avec le rapport Parent, la démonstration que le Québec pouvait être audacieux, fonceur et déterminé en matière d'éducation. Sommes-nous devenus si individualistes ou indifférents qu'il ne nous importe plus de nous mobiliser pour cet important enjeu de société? On pourrait reprendre un célèbre slogan publicitaire et le faire nôtre en matière d'éducation. On est 9 millions, faut se parler. Ce choix de faire face ensemble aux nombreux défis de l'éducation doit être assumé dans un souci inébranlable d'égalité et d'accessibilité. Sinon, nous aurons abdiqué notre rôle, laissant trop de jeunes grandir dans les ronces et le gravier. Si notre société désire investir dans son avenir, dans sa langue, dans sa culture et dans son développement, l'outil et la solution doivent absolument passer par l'engagement de toutes les parties, des parents, des institutions d'enseignement, des communautés et des gouvernements. Si on aime et on croit en l'avenir d'un Québec fier et fort, nos efforts ne pourraient-ils pas être solidaires et ancrés profondément en chacun de nous? C'était « Valoriser l'éducation, un prérequis pour l'avenir », un texte d'Hélène David paru le 28 août 2024 dans la presse.
Girl Night Anthem, premier album pour Kate Lessard. Une entrevue réalisée par Stephen Ross paru le 24 juillet 2024 dans le magazine Fugue. On la connaît notamment pour sa participation à Occupation Double et pour ses chroniques à la semaine des 4 juillet. On l'adore surtout pour son authenticité attachante et pour sa manière rafraîchissante d'offrir un exemple inspirant à la jeune communauté trans. Cette fois-ci, Kate Lessard nous propose de sortir avec ses chums de filles à l'occasion du lancement de son tout premier album, Girl Night Anthem. Discussion musique avec l'espiègle chanteuse abitibienne. Tu as lancé ton premier album le 14 juin dernier. As-tu toujours baigné dans la musique? Depuis mon très jeune âge, oui. J'ai fait le conservatoire de violon, du théâtre et de la danse pendant des années. Ça fait partie de ma vie depuis toujours. Quand j'étais petite, je chantais toujours devant le miroir. Ma mère me disait que ma vie était comme un spectacle. Depuis quand songes-tu plus sérieusement à lancer un album? Le projet plus concret a été mis en branle au début de 2023, mais lancer un album est un rêve depuis toujours. C'est d'ailleurs un running gag dans la famille, parce que chaque fois que je dis que je vais faire quelque chose, ça arrive. Je suis vraiment déterminé. Quand je disais que je voulais être une fille, c'est arrivé. Un jour, j'ai dit que j'allais faire une télé-réalité, sans savoir trop que ça arriverait, mais ça s'est réalisé. Alors, quand je disais « Un jour, je vais chanter des chansons et être une pop star », ma mère répondait « Oui, oui, je sais ». Tes premières chansons sont sorties après avoir réalisé ta transition. Avais-tu besoin de compléter cette étape personnelle avant de te lancer officiellement en musique? Tout à fait. Avant ma transition, je ne voyais pas d'avenir. J'avais de la difficulté à me projeter. Il a vraiment fallu que je passe par cette étape pour me sentir épanoui et faire tomber une barrière. Je sentais qu'en tant que gars, je n'étais pas bien, ce qui m'empêchait de créer et de me développer. Ton art a donc évolué en même temps que ton développement personnel. J'ai d'abord commencé par la drague. J'ai fait mon premier numéro à 17 ans, à Rouen, lors des soirées Vendre Drague, sur la chanson « Applause » de Lady Gaga. Par la suite, je suis venu à Montréal et Rainbow m'a donné ma première chance au cabaret Mado. Ta musique est absolument addictive. Ton style n'est pas sans rappeler celui des Lady Gaga et autres Dua Lipa. Comment te sens-tu quand on te compare à ces artistes? Pour vrai, personnellement, je trouve ça cool parce que j'adore ces artistes et que j'ai certainement été influencé par ce genre de musique. Au secondaire, j'écoutais du Lady Gaga chaque jour dans mes écouteurs. Ça m'a sauvé. Par contre, quand je crée ma musique, je ne tente pas de ressembler à qui que ce soit. Ça sort comme ça vient. D'où est venue l'inspiration pour l'album et le thème « Girl Night Anthem » ? Je suis quelqu'un d'hyper nostalgique. Si je pouvais revivre les soirées de mon adolescence ou mes premières sorties dans le village, je le ferais. J'adore l'émotion vécue en entendant une chanson qui a marqué notre jeunesse, notamment en voiture, quand on mettait la musique fort en descendant la main avec les fenêtres baissées. Rire. L'idée derrière l'album est d'arrêter de s'en faire, d'être heureux, d'être jeune pour toujours et de faire la fête. Je sais que je vais devoir passer à autre chose un jour, mais pour l'instant, j'avais envie de revivre et de partager ce sentiment-là. Mon objectif est de rejoindre les gens et de leur faire du bien. C'est donc très festif. Oui, au début, j'avais une vingtaine de chansons, mais je tentais de trouver une direction et un sens à l'album. Je pensais notamment à « Born This Way » de Lady Gaga ou à « Bangers » de Miley Cyrus, qui m'ont beaucoup marqué. J'adore aussi « Kesha », donc j'ai tenté de faire un bébé né d'un mix entre « Born This Way »,« Bangers » et « Kesha », tout en donnant quelque chose d'estival qu'on a le goût d'écouter en voiture. Le résultat est très percutant. Peux-tu nous parler des chansons? Girl Night Anthem est définitivement un hymne aux soirées de filles. Sweet Kiss parle d'une réflexion à propos de l'orientation sexuelle. Je n'ai jamais été attiré par les filles, mais j'ai croisé un jour une fille tellement belle que je me suis demandé « Et s'il suffisait, ellipse, d'un tout petit baiser? » Line Up for Your Love parle des scénarios amoureux que j'imaginais, étant plus jeune. Je me disais que si j'avais été une fille, j'aurais pu sortir avec tel ou tel garçon et avoir une vie heureuse, même si lui ne le savait pas. Break Me fait référence à la séparation avec un être cher. Dans mon cas, il s'agit de mon papa, que j'ai perdu il y a un mois. Mon père était mon fan numéro un, et il a demandé à entendre cette chanson écrite pour lui quelques minutes avant de partir. Finesse est une chanson hyper cochonne. Une chanson féministe, très sexy. Puis, Till the Song Ends est une chanson qu'on a dû refaire au moins 40 fois, parce que je ne savais pas quelle direction prendre avec. L'industrie musicale québécoise est traditionnellement beaucoup axée sur le folk francophone, ce qui est très différent de ton style. Oui, je ne fit pas du tout ici, mais c'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours fait ce que je voulais, même si ça ne cadrait pas avec ce à quoi les autres s'attendent. Je suis très entêté. Au niveau musical, je sais que c'est kitsch et quétaine, mais j'aime trop le côté micro-casque, paillette, danseur, etc. Tu y vas à fond ou tu n'y vas pas. C'est ma philosophie de vie. As-tu fait appel à des collaborateurs pour la création de l'album? Oui, l'album est le résultat du travail de trois personnes. Maxime Proulx, je ne sais quoi, qui produit toutes mes chansons, Francis Michaud, Maison Libre, à la distribution, qui m'aide énormément en me poussant dans la bonne direction, et moi qui écris les paroles, développe les mélodies et m'occupe de la promotion. Parlant de promotion, tu as réussi un coup de maître sur Times Square le jour de la sortie. Oui, je voulais y aller à fond pour la promotion, d'une manière qui me rendait bien heureuse. Comme tout part de l'Abitibi, c'est là que mes rêves ont commencé et là que je me suis fait juger pour la première fois, j'ai fait installer 12 affiches géantes sur les routes de Rouen et d'Amos du 6 au 12 juin. Comme ça, tous les haters et les gens qui m'ont écœuré ont vu mon album pendant une semaine. C'était parfait. J'étais à New York avec mon meilleur ami pour fêter la sortie de l'album le 14 juin, Alors, on a fait afficher un grand panneau publicitaire sur Times Square ce jour-là. Finalement, nous avons distribué des flyers auprès des jeunes en Abitibi, à Laval et à Montréal, parce que les jeunes, c'est l'avenir et que mes chansons sont le genre de musique que moi je voulais écouter quand j'avais leur âge. As-tu des spectacles ou des surprises futures à nous révéler? Il y a tellement de... Premier album pour Kate Lessard. Une entrevue réalisée par Stephen Ross, parue le 24 juillet 2024 dans le magazine Fugue.
Marie Gabouri, muse, égérie et point d'ancrage de Pierre Vadeboncœur. Un texte de Michel Rioux, paru le 24 juillet 2024 dans Le Devoir. Épouse du syndicaliste et essayiste Pierre Vadeboncœur, Marie Gabouri est décédée le 18 juillet 2024 à l'âge vénérable de 103 ans. Elle était dans la lignée de Marie-Anne Gabouri, la grand-mère de Louis Riel. Cette femme forte, travailleuse sociale de profession, était dotée d'un caractère hors du commun. Comme il l'a déjà décrit, Vadeboncœur n'allait nulle part avant de la rencontrer à l'aube de ses 30 ans, à la fin des années 1940. À partir de ce moment, celui qui devait devenir à compter des années 1960 l'un des plus importants essayistes québécois, avait finalement trouvé un lieu et une cause qui allait donner un sens à sa vie, la défense des travailleuses et des travailleurs à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, CTCC, qui deviendra, au tournant de la Révolution tranquille, la Confédération des syndicats nationaux, CSN. Pendant que Vadeboncœur négociait, dirigeait des grèves, parcourait le Québec, menait à bien son œuvre littéraire, Marie tenait le fort où 5 enfants réclamaient toute son attention. Toujours, quand il parlait d'elle, il avait dans le regard la même étincelle qu'un adolescent qui croit avoir trouvé la femme de sa vie. Après plus de 60 ans de vie commune, il avait toujours cette étincelle. Dans près de 150 pages publiées en 1985 sous le titre « L'absence », l'écrivain amoureux décrit comment il recrée dans son imagination l'être aimé. « En vous parlant de votre grâce physique, pour la représenter, je suggérais de la main une ligne qui aussitôt devenait rare et précieuse. Je traçais à cette fin dans l'espace un motif à peine matériel vers lequel l'émotion se portait librement. C'est à vous que ce plaisir était destiné. » Il prenait une qualité exceptionnelle du fait de ce détour par un signe de la beauté en cause. Elle aura été, durant toute sa vie, autant sa muse que son égérie, son inspiration, celle sur qui il pouvait s'appuyer. Elle savait en prendre soin, pour ainsi dire. Quelques jours avant le décès de Vadeboncœur, en 2010, j'avais fait avec lui une entrevue d'une heure à Radio Ville-Marie. Elle l'accompagnait. Je me souviens de cette phrase touchante qu'elle lui avait dite durant une pause musicale. « Papa, tu fais des phrases trop longues. » Et lui d'acquiescer. Il arrivait qu'elle m'appelle pour me demander de téléphoner à Pierre, me disant qu'il était un peu dépressif ces jours-ci. Un grand plaisir que j'ai fait à Marie, ce fut de suggérer à la CSN la création du prix Pierre Vadeboncœur en 2011. Depuis, ce prix qui vise à récompenser un essai marquant sur des enjeux politiques, économiques ou sociaux a été décerné à 13 reprises à des autrices ou des auteurs québécois qu'on peut notamment lire dans Le Devoir, comme, entre autres, Jean-François Nadeau, Normand Baillargeon, Yvon Rivard, José Boileau, Mathieu Bellil, Yvan Lamonde, Aurélie Langteau. Jusqu'à ces dernières années, Marie se faisait un devoir d'assister en personne à la remise du prix, heureuse que le nom et le souvenir de Pierre Vadeboncœur demeurent toujours présents à la CSN. J'ai quelques manuscrits de Vadeboncœur. Difficile d'imaginer comment Marie arrivait à donner un sens à tous ces mots raturés, ses retours au verso, ses hiéroglyphes, en les transcrivant à la dactylo, puis plus tard à l'ordinateur. Il devait bien y avoir en elle quelque chose comme la patience d'un bénédictin. il m'est souvent venu à l'esprit de dresser un parallèle entre les destins de Louis Aragon et de Pierre Vadeboncœur. L'un s'est trouvé un lieu de solidarité et de combat au Parti communiste français, l'autre dans le syndicalisme à la CTCC. Mais pour l'un comme pour l'autre, une femme a compté plus que tout. Elsa Triolet pour Aragon, Marie Gaboury pour Vadeboncœur. « Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire », a écrit Aragon. L'attente de vos yeux pendant que je vous parlais d'eux, leur immobilité qui était disponibilité à l'hommage, a écrit Vadeboncœur. Je ne sais pas s'il y aurait eu Aragon sans Elsa, qui a déjà dit que l'écrivain la sublimait dans ses textes et offrait d'elle une image poétisée, presque irréelle. Mais je sais que s'il n'y avait pas eu Marie Gaboury, il n'y aurait pas eu Pierre Vadeboncœur. C'était Marie Gaboury, Muse, Égérie et point d'ancrage de Pierre Vadeboncœur, un texte de Michel Rioux, paru le 24 juillet 2024 dans Le Devoir.
Ottawa veut accélérer l'accès à la résidence permanente pour des étudiants étrangers. Un texte de François-Pierre Dufault, paru le 14 août 2024 sur Ici Nouvelle-Écosse. Pour faire face à des « défis d'intégration » des nouveaux arrivants francophones au Canada, le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, annonce le lancement d'un projet pilote pour permettre à des étudiants étrangers d'obtenir plus rapidement la résidence permanente. Ce projet pilote vise à permettre à un maximum de 2300 étudiants étrangers inscrits dans des établissements postsecondaires de langue française de passer directement du statut de résident temporaire à celui de résident permanent après l'obtention de leur diplôme. Mark Miller explique qu'avec leurs compétences en français et leur éducation canadienne, ces diplômés seront en mesure de contribuer au marché du travail et d'enrichir les communautés francophones en milieu minoritaire dans tout le pays. Citation. Ce sont des gens qui, évidemment, parlent un français impeccable, qui étudient dans des institutions postsecondaires à vocation francophone, et qui vont avoir 2, 3 et même 4 ans de début d'intégration au moment de leur diplomation. Fin de citation, note-t-il. 10 nouvelles communautés accueillantes. Mark Miller annonce également la création de 10 nouvelles communautés francophones accueillantes. Elles s'ajoutent aux 14 communautés déjà existantes en milieu minoritaire. Ces communautés ont été choisies en fonction de leur capacité d'accueil et d'inclusion des nouveaux arrivants francophones. Elles auront accès à une enveloppe d'environ 11 millions de dollars pour soutenir leur programme d'accueil, précise le ministre. Près de la moitié de ces nouvelles communautés se trouvent dans les Maritimes. Il s'agit de Chéticamp en Nouvelle-Écosse et de Caraquet, de Belle Baie, incluant Bathurst et la Première Nation de Papineau, et de la région du Restigouche-Ouest, Kedgwick et Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick. Cible d'immigration francophone. Le ministre Mark Miller estime que ces programmes vont aider Ottawa à atteindre sa cible annuelle d'immigration francophone en milieu minoritaire. Citation. C'est un devoir qui n'est pas facile à remplir. Je dirais que le gouvernement fédéral a failli à ce devoir pendant très longtemps. De peine et de misère, on a atteint la cible de 4,4% l'année dernière. Mais ce n'est pas assez. Fin de citation, dit Mark Miller. La cible fédérale d'immigration francophone hors Québec est désormais de 6 % et devrait atteindre 8 % d'ici 2 ans. Mais au-delà des cibles, le ministre de l'Immigration insiste surtout sur la nécessité de mieux intégrer les nouveaux arrivants francophones en milieu minoritaire pour éviter qu'ils ne glissent vers l'anglais. Citation. Le processus d'assimilation est réel. Fin de citation, a-t-il déclaré mercredi lors d'un point de presse à l'Université Sainte-Anne, en marge du Congrès mondial acadien, CMA, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Dans les provinces de l'Atlantique, la région Évangeline à l'Île-du-Prince-Édouard, la région de Clare en Nouvelle-Écosse, la région du Haut-Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et la communauté de Labrador City Wabush à Terre-Neuve-et-Labrador sont déjà désignées par Ottawa comme des communautés accueillantes depuis 2020. Lourdeurs administratives. Dans les communautés francophones, la réaction est généralement positive. Citation « Ce sont deux bonnes nouvelles », fin de citation, affirme Martin Théberge, le président de la Société nationale de l'Acadie. Citation « On voit les résultats des communautés accueillantes, notamment à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. En ce qui concerne les étudiants étrangers, ils viennent dans nos communautés et s'éduquent chez nous. C'est tout à fait normal qu'on prenne des mesures pour les garder. » Fin de citation. L'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick se réjouit aussi de la création de trois nouvelles communautés accueillantes dans la province. Son président, Yvon Godin, affirme dans un communiqué que, citation, « Ces initiatives permettront d'accroître notre capacité à attirer des nouveaux arrivants et à les aider à s'établir de manière durable. » Fin de citation. Les organismes francophones se demandent toutefois si les communautés et les établissements postsecondaires auront les ressources nécessaires pour faire fonctionner les deux programmes. Citation « Ce sont des programmes qui ont une énorme lourdeur administrative », indique Martin Théberge. « Donc, on essaie de voir avec le ministre Miller comment on peut améliorer les choses tout en préservant la nécessité d'avoir une redevabilité. » Fin de citation. Même son de cloche de la part de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, FCFA, du Canada, et de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, FANE. Pour l'Université Sainte-Anne, certains détails entourant le projet pilote de voie rapide vers la résidence permanente doivent être éclaircis. Citation « Ce projet pilote vient répondre à un besoin. C'est un outil qu'on peut utiliser pour recruter des étudiants à l'international. » Fin de citation, souligne Rachel Leblanc, la directrice des communications et du recrutement de l'établissement. Citation « Par contre, il reste à voir si, en raison de notre petite taille, on va avoir les ressources nécessaires pour mettre en place tous les soutiens et toutes les ressources nécessaires pour accueillir ces étudiants. » Fin de citation. C'était « Ottawa veut accélérer l'accès à la résidence permanente pour des étudiants étrangers », un texte de François-Pierre Dufault, paru le 14 août 2024 sur Ici Nouvelle-Écosse.